Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans ce froid qui annonce la neige, nous voici la lune dans vos oreilles. Le ciel est noir, mais votre poste resplendit sur 93.8 MHz en femme Radio Zone. Dans quelques instants, les nouvelles et puis les coups de cœur de Marjolaine. C'est bientôt les vacances, c'est bientôt Noël et à partir de la semaine prochaine, une partie de l'équipe est en vacances, mais Marjolaine reste au poste. Alors continuez sur 93.8 MHz encore jusqu'à l'année prochaine. Dans quelques instants, nos nouvelles, je vous l'ai déjà dit, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse, 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne. Et bien, à tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, en femme Radio Zone, nos nouvelles. Au Chili, drame des nourrissons qu'on retrouve jetés dans des poubelles. Au Chili, selon les chiffres officiels, il y a actuellement 200 000 enfants abandonnés. En 1993, la police a écroué 42 femmes qui avaient jeté leurs enfants dans des décharges publiques. La justice a dû s'occuper de 52 dénonciations d'abandon d'enfants. D'après les rapports de police, dans la plupart des cas, les mères de ces enfants étaient des jeunes filles entre 13 et 19 ans. Elles proviennent toutes de milieux socio-économiques pauvres. Selon les services sociaux de Santiago, ces filles-mères, qui sont actuellement en prison, sont tombées enceintes contre leur volonté. Dans 5 cas, il s'agit de filles qui ont été violées par des membres de leur famille. Au-delà de l'horreur que provoquent ces cas dans l'opinion publique, c'est la politique officielle d'éducation sexuelle qui se trouve mise en cause. Durant la dictature militaire du général Pinochet de 73 à 1990, les cours de formation sexuelle ont été supprimés des programmes scolaires. Depuis lors, ils n'ont jamais été réintroduits et le gouvernement démocratique actuel n'a toujours pas instauré de politique de planning familial. Au Chili, le poids de l'Église catholique est considérable, dominé par des secteurs très conservateurs, puisque l'Opus Dei est très présente. L'Église catholique empêche toute diffusion de méthodes contraceptives, tant chez les femmes que chez les hommes. Le Chili s'avère être le seul pays d'Amérique du Sud où il n'existe aucune publicité pour les préservatifs comme un moyen de combattre le sida. De même, l'Église catholique est fortement opposée à l'avortement, mais aussi à la planification familiale à travers des méthodes contraceptives. L'État ne simplifie pas non plus les choses en maintenant des prix très élevés pour tous les moyens de contraire des naissances. Par exemple, le prix d'un paquet de préservatifs coûte au Chili entre 20 et 30 francs suisses. Or, le salaire d'un ouvrier ne dépasse pas les 250 francs par mois. On comprend très vite le luxe que représente un achat de ce genre. D'autre part, la société chilienne reste traumatisée par ces 20 ans de dictature militaire. La famille est devenue répressive, machiste. Les parents, loin d'aider une fille enceinte, les pénalisent. Elle est répudiée, socialement exclue. Une mère célibataire n'obtient que rarement du travail. Les hommes procréateurs de ses enfants n'assument que très rarement leur paternité, forcée aussi par la pression familiale. Dans cet état de choses, pour une jeune fille, être enceinte devient un cauchemar épouvantable. L'apparition des nouveau-nés dans les ordures devient un symbole dans une société qui est devenue hautement compétitive. Néolibéralisme oblige, la vie semble devenir également un produit, un déchet. En Inde, les victimes de la catastrophe de Bhopal vivent dans l'oubli. 10 ans après la catastrophe, 500 000 personnes demandent toujours réparation pour les souffrances endurées. L'oubli et l'indifférence sont leur lot quotidien. Rappelez-vous, le 2 décembre 1984, une fuite de produits chimiques provenant d'une usine d'insecticides appartenant au groupe américain Union Carbide avait décimé le bidonville voisin. 4000 personnes sont tuées sur le coup, 3000 meurent par empoisonnement. La lenteur de la justice indienne, débordée par cette affaire, la corruption qui y sévit, comme dans l'administration, l'incurie des hôpitaux et des médecins, tout concourt à faire que les victimes n'ont pas, dans leur majorité, été correctement soignées et encore moins indemnisées. En 1989, Union Carbide avait versé 470 millions de dollars à l'État indien, soit le 12e de ce qui lui avait été réclamé. Mais seuls 20 millions de dollars, environ 32 millions de francs, ont été distribués aux victimes. 8 cadres de la filiale indienne de Union Carbide ont été inculpés d'homicide par négligence, mais aucun procès n'a eu encore lieu. Les problèmes ne sont pas que juridiques, mais bien sûr médicaux. Les victimes souffrent de problèmes respiratoires, de cataractes qui surviennent en moyenne beaucoup plus jeunes qu'ailleurs, et des problèmes gynécologiques. Presque tous ont vu leur défense immunitaire considérablement affaiblie et les enfants qui ont inhalé les gaz ont une croissance bien plus lente que la normale. Les malades qui se rendent dans les hôpitaux publics gratuits sont souvent renvoyés vers des cabinets médicaux privés qui fleurissent dans cette ville de 1,2 million d'habitants. Il y avait 13 cabinets il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Une institutrice lapidée en Croatie. Des élèves croates attaquent une enseignante parce qu'elle est de père serbe. Une quarantaine d'élèves croates âgés d'une dizaine d'années ont récemment lapidé et insulté leur institutrice parce qu'elle est de père serbe. L'incident s'est produit dans une école de Kaftat, près de Dubrovnik. Le 12 décembre, a expliqué l'institutrice dans une interview, une quarantaine d'élèves se sont rués vers moi en me lançant des pierres, des bouteilles et des pétards et en hurlant des injures. « Nous te tuerons à coups de matraque », criait-il. La scène se passait sous les regards amusés de la directrice de l'école et des autres enseignantes. En Indonésie, la tentation islamiste devient de plus en plus forte. Héritier d'un islam modéré, le plus grand pays musulman du monde se trouve aujourd'hui écartelé entre ses traditions de tolérance et les prises de position radicales exprimées de plus en plus ouvertement par les fondamentalistes religieux. Une sourde bataille fait rage en Indonésie qui comprend sur 160 millions de musulmans sur les 186 millions d'habitants. Sourde bataille entre partisans d'un islam traditionnellement tolérant et un militantisme fondamentaliste qui pourrait à terme déstabiliser l'archipel. Si rien n'est fait, l'Indonésie risque de devenir une autre Algérie en l'espace de 10 ans, précise Vahid, un dirigeant d'une importante organisation musulmane du pays. L'autre versant de l'islam est incarné par Amin Raïs, qui à l'instar des militants fondamentalistes nouvellement apparus en Asie, notamment au Bangladesh et en Malaisie, prône l'introduction en Indonésie de la charia, le code islamique de la famille. Et il prône également son application sélective pour les musulmans, y compris dans ses aspects les plus impitoyables, tels que la lapidation de la femme adultère ou l'amputation de la main du voleur. Ce serait une première, la charia n'a jamais été en vigueur dans l'archipel. Ambivalence et ambiguïté émaillent le discours des fondamentalismes. S'ils considèrent que amputer un membre peut être fait uniquement dans des circonstances très graves, la lapidation leur pose moins de problèmes. De plus, s'il était encore rare, voilà 10 ans, de voir des femmes porter le voile, aujourd'hui, c'est devenu très courant. Ce renouveau islamiste, entamé depuis la révolution iranienne en 79 et vivifié par la guerre du Golfe, touche essentiellement les classes moyennes citadines, favorisées par le développement économique du pays. Depuis 4 ans, le gouvernement Suharto, en perte de vitesse, n'a cessé de multiplier les concessions accordées aux islamistes tout en essayant de les contrôler. Ainsi, les tribunaux islamiques ont conquis le droit de se prononcer en appliquant la charia sur des affaires de mariage, de divorce, d'héritage, du port du voile dans les écoles publiques, qui était interdit en 82 mais qui a été autorisé en 91. Et bien sûr, les mouvements de propagation de la foi se sont multipliés. En France, un commando anti-avortement s'attaque à un hôpital nantais. Il y a quelques semaines, 11 militants anti-avortement ont empêché le fonctionnement du service d'interruption volontaire des grossesses de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes en s'enchaînant collectivement avec des antivols de moto. Les 11 militants, parmi lesquels 2 femmes et un ancien évêque du Cameroun âgé de 84 ans, revêtu de sa soutane et marchant avec des béquilles, ont voulu s'enchaîner à une table d'opération, mais devant les portes fermées par le personnel, ont décidé de bloquer le couloir en s'enchaînant avec des antivols de moto. Aucune revendication n'a été faite. Les pompiers ont été requis par la police pour découper l'acier des antivols. Placés en garde à vue, ils ont été mis en examen pour attroupement non armé, entrave à la liberté du travail et à l'interruption volontaire de grossesse. Ils encourent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 francs d'amende. Selon le planning familial, il y aurait eu une bonne quarantaine d'attaques de ce type depuis 1985 en France. Au Mali, grève du sexe dans la petite ville de Dioro. L'intervention d'une organisation non gouvernementale américaine a semé le trouble dans le petit village de Dioro au Mali. L'histoire commence un beau jour, en 86, réunis en petit comité, les notables du village décident de créer une association de développement local et d'aménager un vaste jardin communautaire de 6 hectares. Décision est prise de faire appel au soutien d'une organisation non gouvernementale, c'est Africaire, qui financera le projet, à la condition toutefois que le village s'engage à fournir la main-d'œuvre nécessaire et qu'il respecte à la lettre le mode de gestion imposé par l'organisation américaine. Pas de problème, répondent les chefs du village. Les 220 femmes de Dioro se nettent tellement bien au travail que très vite elles représentent la presque totalité des employés du jardin communautaire. Comme c'est bizarre. Apprenant la nouvelle, le responsable de l'Africaire au Mali exprime la volonté de son ONG de ne plus travailler qu'avec les femmes. Position bien sûr inacceptable pour les hommes qui sont à l'origine du projet. Dès lors, ils font tout pour transformer le potager nourricier en une friche stérile. Prétextant des nouveaux investissements pour le jardin, ils empruntent 15 millions de francs CFA à une banque locale. L'emprunt n'est jamais remboursé. Un huissier finit par saisir le matériel horticole acheté avec les deniers d'Africaire. Coriace, les femmes du village lèvent des fonds pour acheter l'objet de la saisie. Les hommes chassent alors les femmes de leur potager, manu militari. En attendant que la justice tranche, les femmes de Dioro font la grève du sexe. Problème démographique en Corée, il n'y a plus assez de femmes et le déséquilibre entre les sexes s'accélère. Un Coréen sur 6 ne trouvera pas de femmes pour se marier dans les 5 prochaines années et ce nombre augmentera. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a publié ces chiffres et estime que la Corée du Sud devra faire face à un sérieux déséquilibre de sa structure démographique. Le problème remonte aux années 70, durant lesquelles sont apparus à la fois des progrès médicaux importants et une généralisation de l'avortement, les deux facteurs s'ajoutant à la préférence culturelle traditionnelle des Coréens pour les garçons. Des médecins qui cherchent à s'enrichir acceptent de pratiquer tous les avortements qui leur sont demandés. Beaucoup de femmes enceintes ne veulent pas avoir de filles, souligne le ministre. Et de poursuivre, le gouvernement doit rapidement introduire une politique destinée à réformer une société dominée par les hommes, à donner aux femmes des chances égales et abolir la discrimination sexuelle sur les lieux de travail. L'Église a protesté avec vigueur contre la loi sur l'avortement présentée au Parlement. La Corée du Sud n'est pas le seul pays d'Asie à connaître ce problème de déséquilibre entre hommes et femmes, puisque l'Inde et la Chine en souffrent aussi pour les mêmes raisons. Il y a quelques mois, le gouvernement indien a interdit l'utilisation de la technique de l'amniocentèse pour déterminer au début de la grossesse le sexe de l'enfant à naître. En Suisse, une fillette sur 3 serait victime d'abus sexuels. Selon la première étude suisse sur l'exploitation sexuelle des enfants, 2/3 des victimes connaissent leur agresseur. Une fille sur 3 et un garçon sur 6 ont été victimes d'abus sexuels avant leur 14e année. C'est les conclusions de la première étude suisse sur l'exploitation sexuelle des enfants et des femmes. Chez les filles, 95% des agresseurs étaient des hommes ou des adolescents. Chez les garçons, 80% étaient des hommes. Les auteurs d'abus sexuels sont en majorité des personnes connues de l'enfant. Elles sont souvent issues du milieu familial. Mais il y a également des pasteurs, des professeurs de gymnastique et les chefs scouts. 1/3 seulement des agresseurs sont des inconnus. L'étude aura des effets concrets. Un service de conseil destiné aux garçons, aux adolescents et aux hommes adultes victimes de délits sexuels devrait ouvrir au printemps prochain à Zurich. La première maison pour filles a ouvert ses portes en décembre dans la même ville. Elle offre logement et protection à 8 personnes de 14 à 21 ans. Suisse, la pétition des homosexuels a recueilli 84 000 signatures. C'est une grande victoire. Plus de 84 000 personnes ont signé la pétition réclamant les mêmes droits pour les couples de même sexe. Aucune autre pétition aux chambres fédérales n'a obtenu tant de signatures cette année. La pétition des gays, que 19 conseillers nationaux appuient, sera remise à la chancellerie fédérale en janvier. Le texte exige une reconnaissance juridique des couples de même sexe, notamment par le droit de séjour pour le partenaire d'origine étrangère. Il demande aussi une égalité de traitement en cas de maladie ou de décès du conjoint. Il ne réclame pas le mariage pour les homosexuels, ce qui n'est pas le cas par exemple en Suède, qui a adopté une loi accordant aux homosexuels des deux sexes le droit de se marier civilement, suivant ainsi les exemples danois ou norvégiens. En Suisse, les couples homosexuels mariés bénéficieront des mêmes avantages juridiques et sociaux que les couples hétérosexuels mariés.
Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, la suite de nos nouvelles. Vous écoutez Radio Pleine Lune sur 93.8.
À Genève, un projet de dépistage du cancer du sein est en panne. Alors que beaucoup de femmes meurent d'un cancer du sein à Genève, un ambitieux programme de prévention patine. Genève détient un funeste record en figurant parmi les endroits au monde où le cancer du sein se déclare le plus fréquemment. Une femme sur 10 vivant jusqu'à 80 ans pourrait en être atteinte. Près de la moitié des cancers sont dépistés à des stades déjà beaucoup trop avancés, ce qui fait que, malgré les progrès thérapeutiques, la mortalité due au cancer reste désespérément stable. C'est pourquoi un programme de dépistage avait été mis sur pied, un programme de dépistage très précoce qui consistait par une mammographie de contrôle et une formation complémentaire des radiologues pour qu'ils puissent lire de façon très claire ces radiographies. Mais le programme a connu beaucoup de péripéties. En 1991, le patron de la santé publique, Guy-Olivier Segond, réserve 1 million de francs à la réalisation du projet, somme destinée à soutenir les caisses maladies face au surcroît engendré par le programme. Mais la mise sur pied est trop lente pour le monsieur Gosse, qui finit par éliminer le million du budget. Une décision aujourd'hui renforcée par le refus populaire de la fermeture de la clinique de Montana. « Je dois économiser 17 millions ». L'heure n'est pas aux nouvelles dépenses, a-t-il dit. Conséquence, faute de subventions, les caisses refusent d'assumer seules et annoncent qu'elles s'aligneront sur la nouvelle loi sur l'assurance maladie adoptée le week-end dernier. Celle-ci prévoit le remboursement obligatoire d'actes préventifs comme le dépistage, mais seulement dès 1996. Mais les médecins qui sont convaincus par le programme se mobiliseront probablement dès l'an prochain. La Ligue contre le cancer a proposé son soutien financier. Et pour terminer notre rubrique sportive, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se faire de la boxe, à mettre les gants, attirées davantage par la boxe française, qui utilise également les pieds et qui est quand même un peu plus souple que la boxe anglaise et moins violente que la boxe thaïlandaise. Pratiquer l'art du crochet, c'est avant tout accomplir un sport complet qui répond à un besoin de dépenses physiques et d'expression corporelle. C'est aussi prendre confiance en soi. Au-delà de l'image, l'évolution du nombre de licenciées femmes inscrites aux fédérations le montre. Les filles sont de plus en plus attirées par les salles de boxe. Une mini-révolution dans le monde viril des clubs peuplés de mauvais garçons amateurs de castagne. Désormais, les femmes cherchent aussi à se défouler, mais leurs motivations ne sont pas forcément celles des hommes. La boxe fait beaucoup appel à l'intelligence tactique, dit une des femmes. Les femmes y recherchent également une plastique, une esthétique, explique Claude Valadier, directeur technique national de la Fédération de boxe française. Comme il n'y a pas assez de femmes dans les clubs pour qu'elles puissent s'affronter uniquement entre elles, l'habitude du face-à-face avec un homme leur fait également gagner en confiance. En même temps, celles qui arrivent à un haut niveau de compétition ont bien assimilé les consignes de sécurité. On ne peut pas parler d'un sport violent, les femmes sont à égalité sportive avec les hommes, mais elles pratiquent davantage l'assaut, c'est-à-dire seulement toucher l'adversaire. Eh bien alors, voilà, une idée pour 95, mettez-vous donc à la boxe. Voilà, nos nouvelles sont terminées, c'est le dernier bulletin de nouvelles de cette année 94, riche en péripéties. Je vous souhaite des très bonnes fêtes, une très bonne année nouvelle, et je vous donne rendez-vous au début janvier 1995 pour une nouvelle année pleine de lune dans vos oreilles. Mais très bientôt, Marjolaine vous attend avec ses coups de cœur.
Good. Hey, mama, can I have that big elephant over there? Hey, who dat in my chair? Hey, what she doing there? And oh, mama, oh, hey, mama, hey, what dat say up there? Hey, mama, what's a square? Hey, where do we get air? Hey, mama, can I have that big elephant over there? My quizzical kid, she doesn't want anything hid. She's forever demanding to know who, what, and why, and where. Inquisitive child, and sometimes the questions get wild. Like, mama, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair. Hey, where my teddy bear? And oh, mama, oh, hey, look at that cowboy coming there. Hey, can I have a pair of boots like that to wear? Hey, mama, can I have that big elephant over there? The time will march, the years will go. Lady's gonna grow. I gotta tell her all she'll need to know. I help her, I lost her, she'll know right from wrong. Gotta make her strong. As life's parade goes trudging by, she'll need to know some reasons why. I don't have all the answers, but I'll try as best as I can. Gotta help her to plan so she'll make her stand. You give the kid your best, and you hope she'll pass the test when you finally send her out into the world somewhere. Although she's grown, I'm betting I never am forgetting. Mama, can I have that big elephant over there? What they doing there? Hey, where they going there? And oh, mama, oh, hey, mama, hey, why dead under there? Hey, mama, what is fair? How come I gotta share? Hey, mama, can I have that big elephant over there? Yeah, mama, can I have that big elephant over there? Yeah, mama, can I have that big elephant over there?
Sheila Jordan, c'est elle qui vocalise, c'est elle qui nous charme. Je n'ai rien dans les oreilles, mais j'espère que vous m'entendez. Oui, bien sûr. Alors, donc, Sheila Jordan, c'est une femme qui a un charme tout dans la voix. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Je suis certaine qu'elle est formidable sur scène. Et on l'a déjà écoutée, d'ailleurs, sur nos ondes de Radio Pleine Lune. Dans quelques instants, nous aurons, bah d'abord, nous aurons de la musique.
Are blooming.